Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à toutes et à tous, une cinquième émission par le bout de la lorgnette. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Alors une émission aujourd'hui un peu particulière, non pas parce que Nico est revenu, mais on est content qu'il soit là. Bonjour Nico.
Merci.
Bonjour.
Salut.
Salut Valérie, salut Héloïse.
Bonjour. Salut.
Alors une émission un peu particulière parce qu'aujourd'hui on va se faire plaisir, on va pas parler de livres qui viennent d'être édités, quoique peut-être, vous en aurez la surprise, mais on va surtout parler de livres qui nous tiennent à cœur, de livres, voilà, on s'est décidé de se poser la question si on avait deux livres à sortir de notre bibliothèque, deux livres vraiment qu'on aime, quels seraient-ils? Et donc on va vous les présenter, vous les proposer aujourd'hui, donc peut-être vous les connaissez, peut-être pas, ça sera la surprise. Alors on va en présenter à tour de rôle, on va commencer par Héloïse, voilà, tirage au sort, c'est tombé sur toi.
Oui, tout à fait.
Et surtout, comme ça, ça permet à Valérie de boire du vin, c'est en ça. Attendant. Deux livres, le premier.
Alors, le premier que je vais vous présenter s'appelle La Harpe d'Herbe. C'est un livre de Truman Capote, qui est un auteur classique américain. Et c'est édité chez Gallimard, en l'occurrence. Donc, je vais vous dire deux mots sur l'histoire, en premier. Donc, c'est l'histoire de Colin, un orphelin, en fait, un jeune garçon qui a dans les 10 ans, il me semble, et qui est donc orphelin et qui est élevé par deux vieilles filles qui sont, je pense, ses tantes. Elles s'appellent Dolly et Verana. Donc, il y en a une qui est très sévère, qui joue un peu le rôle de l'homme de maison, qui est très froide avec lui. Donc, c'est Verana. Et il y a Dolly, qui est son amie et qui est vraiment un personnage très touchant et central. Elle est un petit peu simplette, elle est rêveuse, elle est douce, elle aime beaucoup les plantes et elle vit vraiment dans son monde et elle embarque Colin avec elle dans toutes ses aventures en fait. Et donc suite à une dispute avec Verana, tout ce petit monde décide d'aller habiter dans une cabane dans les arbres, dans la forêt à côté de la maison. Donc il y a Dolly, il y a Colin et il y a aussi la bonne noire qui s'appelle Catherine. Bon, ça se passe, il faut savoir, ça se passe dans le sud profond des États-Unis, début 19e. Donc c'est une ambiance particulière aussi, c'est vraiment très, très prenant au niveau de la ségrégation, au niveau de tout ça. Et c'est un univers vraiment magique, parce que qui n'a jamais rêvé d'aller s'installer dans une cabane dans les arbres? Et quand on est enfant, c'est vrai que c'est un rêve qu'on nourrit, je pense. Enfin moi, je l'ai nourri en tout cas.
Et tu l'as nourri toi?
Oui, oui, oui. Cabane, quand t'es enfant, oui, oui, au fond des bois, c'est un fantasme.
Et Valérie,
hein? Moi, j'en faisais des cabanes aussi. Ouais.
Non, Valérie, les hôtels. Quand elle était petite, je vais aller à l'hôtel,
c'est
maman.
C'est ça, maman, s'il te plaît. Retourne au Hilton.
Donc voilà, c'est toute cette aventure qui est absolument magnifique. C'est un des premiers romans de Truman Capote et c'est largement inspiré de sa vie parce qu'effectivement, lui, même s'il était orphelin, il a été abandonné de ses parents, il a été élevé par ses tantes. Et dont une, en fait, qui l'a beaucoup marqué, c'est un personnage qui est très récurrent dans ses livres. Dans le premier bouquin qu'il a écrit, il s'appelle Les Domaines Hantés, elle est là, sous un autre nom, mais elle est là. Un conte de Noël, elle est là. Enfin, la harpe d'herbe, elle est là. Donc, c'est vraiment un personnage qui l'a inspiré et qui est magnifique. Et il y a plein de romans. Enfin, moi, Truman Capote, c'est vraiment de mes auteurs favoris. Et il y a plein de romans que j'aurais pu choisir, mais c'est peut-être celui-ci qui m'a le plus touché. Voilà.
Le plus marqué.
Le plus marqué, oui.
Et tu l'as lu en quelle année?
Oh, je l'ai lu.
Il y a longtemps, tu l'as lu fin d'adolescence, quand tu étais déjà adulte ou...
Je pense que j'avais 20 ans, ouais. Donc,
d'accord.
Ouais, quand je l'ai lu. Et c'est vrai que j'ai tout lu de Truman Capote et c'est vraiment une œuvre magistrale. Hein. C'est un auteur très important aux États-Unis et il faut vraiment le découvrir. Il y a une édition intégrale qui est sortie chez Quattro Gallimard il y a deux semaines. Et c'est, même sa correspondance, ses nouvelles, tout est intéressant.
Il n'y a pas des livres, des films qui ont été tirés de ces livres ?
Si, tout à fait. Bah, le plus connu, c'est Petit déjeuner chez Tiffany avec Audrey Hepburn. Ouais.
Il y a souvent des références à son œuvre dans des films.
Oui, aussi.
On en parle souvent. Ouais.
Et il y a eu un film sur lui, effectivement, qui était sorti avec, comment s'appelle-t-il ? Seymour Hoffman, cet acteur qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et... en fait, le film traite de tout le parcours qu'il a vécu en écrivant son gros roman, son grand roman, c'est 200 froids. Et c'est le premier roman aux États-Unis, le roman journaliste, en fait. C'est la première fois qu'on écrivait un roman journalistique et réaliste.
Quelle époque, Truman Capote ?
Alors...
Capote, pardon.
Capote, on dit ce qu'on veut, mais...
On dit ce qu'on veut, d'abord.
Truman Capote.
Non,
c'est souvent comme ça qu'il est présenté.
C'est souvent comme ça qu'il est présenté, ouais.
Année 40-60, ouais.
Année 40-60.
Voilà, il a connu Marilyn Monroe, il faisait partie du gratin new-yorkais.
Et...
Oui, oui.
On va avoir beaucoup d'auteurs, je pense, de cette époque-là dans cette émission.
Donc voilà, c'est un roman que je voulais vous présenter.
Bon, c'est bien, ça donne envie, de lire.
Absolument.
J'espère que ça donne envie à nos auditeurs. En tout cas, nous, le lire, c'est quand même. Un élément de construction, je trouve. Mm. Alors, c'est vrai que dans nos choix, on verra tout à l'heure, mais dans nos choix, il y a beaucoup de références, en fait, à la façon dont on s'est construit avec les livres. Et on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que les livres sont quand même des repères, souvent à la fin de l'adolescence. Et ce qui est un peu dommage, c'est que les ados lisent moins.
Oui.
Alors, ils se réfugient sur d'autres vecteurs de communication, d'autres vecteurs d'information, je pense au net notamment, et après, voilà. C'est une autre forme, mais qu'est-ce que ça va donner ? Je ne sais pas s'il n'y aura pas un manque. Après, il y a un retour peut-être au livre. Finalement.
Oui, moi, j'ai beaucoup de jeunes hommes et de jeunes filles qui viennent et qui lisent et qui apprécient d'être dans la librairie et qui apprécient qu'on leur donne des conseils. Et...
Oui, bah, je pense que c'est ça, c'est le manque de conseils. C'est le manque de conseils de trouver quel auteur peut correspondre à quel... adolescence, à quel moment de l'adolescence, à ce qu'on recherche.
Oui, voilà, on n'est pas obligé non plus.
C'est compliqué. Ouais.
Ce qui est très compliqué, je pense, c'est d'arriver en fait à bien conseiller et à donner envie aux jeunes de découvrir par les tiens. Parce qu'il y a une espèce d'image assez, assez ancienne, assez désuète de la littérature ou de la lecture. Et on ne parle pas du plaisir. Bon, parce que aussi, parce qu'il y a le cadre scolaire derrière, il y a beaucoup de lectures de façon informelle, pas décidé, voilà.
Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on n'est vraiment pas obligé de lire des choses même bien écrites ou des choses sérieuses ou des classiques quand on est ado. Vraiment, il y a des séries sublimes. Moi, je suis en train de lire une série qui s'appelle L'Épreuve et je suis à fond dedans et j'ai 24 ans. Donc, il y a vraiment pas de...
Ça se lit comme des séries télévisuelles, c'est ça ?
Un petit peu, oui. C'est vrai que c'est très visuel comme univers. Il y a beaucoup de films qui sont adaptés de ces séries-là pour les ados. Mais il n'y a aucune honte à lire ce genre de séries, même quand on est adulte.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que aussi dans les séries qu'on voit aujourd'hui, et qui sont, dont les ados sont très fans, même les adultes, les jeunes adultes et même les plus vieux, c'est souvent sorti d'histoires, de scénarios, de scénarios qui ont été écrits et qui sont mis en film. Façon scénaristique, et en fait on oublie que derrière il y a quand même d'abord un premier jet qui est l'écriture.
Oui.
Voilà. Et que l'écriture c'est d'abord du plaisir avant d'être une technique, avant d'être une formation, avant d'être tout ça, c'est d'abord du plaisir. Voilà.
Mais même pour les jeux vidéo, ça marche pour les films, mais ça marche aussi pour les jeux vidéo, il y a d'abord un scénario.
Mais pour tout, pour les rencontres aussi, c'est d'abord du plaisir.
Oui, il faut expliquer aux jeunes qu'on peut sortir du cadre scolaire, qu'il n'y a pas que l'Assommoir de Zola... Il n'y a pas que ce genre de littérature
même
qui existe.
Même si Zola, c'est génial, mais peut-être un peu plus tard.
Avec du recul.
Pas quand on a 15 ans,
donc,
16 ans.
Donc il faudrait en fait que, Héloïse, tu ailles à la commission des livres scolaires et que tu puisses donner des fois d'autres orientations.
Non, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'on pourrait se rapprocher encore plus des libraires, surtout des libraires de proximité, des gens qui lisent beaucoup.
Alors oui, il faut dire aussi aux parents que leur voix est prépondérante. C'est-à-dire que quand les parents lisent, les enfants lisent, souvent, voilà. Alors on peut lire à ses enfants tout petits déjà, c'est essentiel parce qu'on sait qu'ils y reviendront. Moi, par expérience, je sais, voilà. Mais c'est aussi, quand on lit, les enfants, en fait, c'est leur univers. Donc quand ils vous voient lire, quelque part, c'est un repère pour eux et ils prennent facilement un livre où on peut leur dire, tiens, prends un livre, mets-toi à côté de moi, ou tiens, je vais te lire une partie du livre, mais qu'est-ce que tu lis? Voilà. Faut pas refuser ça parce que c'est sans arrêt des tentations. Et aller vers la littérature ou vers la lecture simplement, sans parler de littérature.
Oui, parce que je rappelle que la BD et les mangas sont aussi des lectures très saines.
Et la SF, comme on va le voir, ce sont des lectures très très saines.
Absolument. On rappelle le titre, Héloïse, de ce livre, l'auteur.
Alors, ça s'appelle La Harpe d'Herbe et c'est Truman Capote chez Gallimard.
Chez Gallimard. Tiens donc. Très bien, c'est noté.
Eh bien, ça va être autour de notre Ludo national.
Alors, je vais essayer de faire court, mais c'est pas gagné, parce que quand je parle des livres que j'aime, je suis souvent long. Et je vais essayer de faire court, mais ça va être difficile. Alors, premier livre, ce livre n'a pas changé ma vie, ça sera plutôt le second livre que je vais présenter tout à l'heure qui l'a changé. Celui-là m'a poussé dans la conviction que lire pouvait être un plaisir. Un livre de 477 pages, donc ce qui était impossible pour moi auparavant de lire un livre comme ça. Voilà, Valérie qui l'a amené, je la remercie parce que moi mes livres sont encore dans des cartons, j'ai pas réussi à trouver.
Donc tu ne l'as pas lu.
Mais je l'ai lu. Je l'ai lu il y a très longtemps, mais je m'en souviens encore très bien. Tu l'as lu d'ailleurs, vu que tu l'as.
Il est abîmé d'ailleurs.
La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, c'est aux éditions 10-18, entre autres. Alors c'est un livre qui a été couronné à titre posthume par le prix Pulitzer en 1981. Alors, au final, cet écrivain, il aura écrit seulement deux romans. Un premier à 16 ans qui se nomme La Bible de Néon et le second, La Conjuration des Imbéciles à 24 ans. Alors, pour situer un peu l'écrivain, pour commencer, John Kennedy Toole, écrivain américain, né en 1937 à la Nouvelle-Orléans. Il reste toute son enfance dans sa ville natale, la Nouvelle-Orléans, qu'on va pouvoir retrouver dans La Conjuration des Imbéciles. Et il passe un master de littérature anglaise à l'Université de Columbia à New York. Il enseigne dans divers établissements. En 1961, donc il a 24 ans, il réalise son service militaire de 2 ans à Porto Rico, une période à laquelle il s'ennuie un peu et où il écrit à 24 ans La Conjuration des Imbéciles. À la fin de son service militaire, il retourne à la Nouvelle-Orléans pour vivre chez ses parents et enseigner au collège dominicain. Et à ce moment-là, il tente de faire publier cet ouvrage, La Conjuration des Imbéciles, pour lui qui était un chef-d'œuvre. Un roman, en fait, qui au final est refusé par l'ensemble des éditeurs, il n'y en a pas un qui l'accepte. À partir de là, sa santé, son moral se détériorent. Il a perdu tout espoir d'être publié. Il se suicide le 26 mars 1969 à l'âge de 31 ans, en reliant l'habitacle et le pot d'échappement de son automobile. Voilà, ça c'est pour les détails sordides. Après sa mort, du coup, sa mère poursuit quand même ses efforts pour faire publier cet ouvrage. Et elle a réussi à le faire lire à l'écrivain Walker Percy. En 76, alors c'est marrant parce que Walker Percy parle dans la préface de comment la mère de John Kennedy Toole est venue le voir et a dit, et lui il raconte, il n'y a rien de plus détestable déjà de lire un roman et là que ça soit une mère qui vient nous voir en disant mon fils s'est suicidé parce que le roman n'a pas été édité alors que pour lui c'était un chef-d'œuvre, c'était écrit à la main, c'était illisible, et il a dit mais il n'y a rien de pire quoi. Et là il a commencé à lire, il ne s'est plus arrêté, il s'est dit mais c'est génial quoi. Donc il est allé voir son propre éditeur qui finalement le publie en 1980, du coup bien reçu par la critique, le public, vendu à plus de 1 500 000 exemplaires, traduit en 18 langues
pour un livre, hein, quand même.
Ce qui est bien, c'est énorme. Donc traduit en 18 langues, Kennedy Toole, je voulais dire, reçoit le prix Pulitzer de la fiction en 1981. Alors le pied de nez à l'histoire, la triste ironie de cet auteur, de cet ouvrage, c'est que le titre, La Conjuration des Imbéciles, est une citation de Jonathan Swift, qui est mise en épigraphe dans le livre. Le roman commence comme ça. « Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. » Alors c'est marrant de voir que tous les éditeurs ont refusé ce livre qui au final a fait un carton et a reçu le prix Pulitzer.
Les éditeurs sont beaucoup imbéciles.
Je ne veux pas dire
non,
ça,
mais c'est une belle histoire d'édition.
C'est une belle histoire.
En fin de compte, ouais. Et il y a beaucoup d'auteurs qui ont été refusés comme ça et qui étaient des génies. Hein. Proust, il a été refusé partout au début, hein, par exemple.
Exactement. Et ce qui est drôle également.
C'est l'objet un petit peu du livre que vous avez présenté aussi les semaines précédentes.
Je me souviens
pas. Dans une librairie.
Ah, il y en avait deux, il y avait le rideau.
Il y avait le rideau, et il y avait oui, toutes les barques s'appellent Emma.
Voilà, toutes les barques s'appellent Emma et qui parlent exactement de ça, quoi. De tous ces auteurs qui ne seront jamais lus ou ceux qui sont édités, qui passeront bilan et qui seront voilà, quasiment jamais vendus, quoi. Et
au final, j'ose espérer que les vrais génies sont reconnus.
Bah, un moment ou un autre.
Comme Tool, quoi.
À titre posthume pour ça.
On a dû en louper quelques-uns, mais en règle générale, ils sont.
J'espère, en tout cas.
Alors, autre ironie, donc il commence le livre comme ça, John Kennedy Toole, et il finit le livre avec Ignatius, l'héros du livre, à la toute fin, qui parle, donc bon, je peux vous le révéler parce que ça change pas l'histoire du livre. Ignatius parle de toutes les notes qu'il a jetées sur le papier, qu'il ne faut pas laisser tomber entre les mains de sa mère, elle pourrait lui rapporter une fortune, l'ironie serait trop amère. Alors, autre pied de nez à l'histoire. C'est un roman vraiment humoristique, c'est très drôle, qui évoque les relations compliquées du héros Ignatius et de sa mère, Madame Reilly. Alors, c'est une relation quasi autobiographique, c'est pour ça que je vous parle de la fin de ce livre. Il a eu une relation compliquée avec sa mère, John Kennedy Toole. Côté histoire, l'histoire, elle se situe aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, donc là où habitait John Kennedy Toole au début des années 1963. C'est exactement quand l'auteur a écrit le livre. Le personnage principal est Ignatius J. Reilly, un étudiant en littérature médiévale, alors remarquablement érudit, d'une intelligence qui confine au génie paranoïaque, mais qui vit en vrai pacha chez sa mère qui est alcoolique, atrictique. C'est deux personnages vraiment complètement distincts et qu'on retrouve souvent ensemble dans ce livre. Ignatius, lui, s'exprime pour son créateur. Alors, il a un créateur, il écrit constamment dans son livre ce que devrait être le monde, car il aborde son époque. Il déteste, il est en décalage avec ses contemporains, il méprise forcément ses contemporains-là. Et tous les archétypes de l'Amérique contemporaine y passent, les bourgeois, les beatniks, les rockers, le flic, les vieux crétins, les fondamentalistes, la voisine acariate, l'activiste anarcho-névrosé, les vendeurs de hot-dogs, les communistes. Donc là, vous imaginez la pléiade de personnages qu'on peut retrouver dans ce livre, plus drôles les uns que les autres. Alors, ce héros est hypochondriaque, il est tourmenté, il a un anneau pylorique qui se ferme à la moindre contrariété, donc il ne peut rien faire dès qu'il s'énerve. Il dit « Attention, mon anneau se ferme, il fait rien ». C'est vraiment un personnage odieux, égocentré, qui a des convictions réactionnaires. Il porte au firmament que les philosophes d'autres siècles. Il parle durant tout le livre de Platon, Diogène, Boèce, des grands théologiens du XIIIe siècle, de la philosophie scolastique. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, Nico.
Non.
Alors, pour vulgariser, ça prône l'oisiveté, le temps libre, l'inactivité. Ça a signifié plus tard « tenir école, faire des cours ». Au Moyen-Âge, seuls les religieux avaient la cholée, c'est-à-dire le loisir d'étudier, laissant aux autres le soin de s'occuper des affaires matérielles, en gros de travailler. Donc c'est ce que prône Ignatius au long du roman. Lui, il rêve d'un monde libéré, alors je cite, des dégénérés et semi-mongoliens qui le peuplent. il se consacre donc à écrire des cahiers de sa vision du monde.
On est dans la lutte contre les discriminations, tu sais.
Ah oui, mais alors c'est pas fini, hein. Alors que sa mère est contrainte de rembourser les dégâts qu'elle a infligés au volant de sa voiture, Ignatius se trouve forcé de chercher un emploi pour la première fois de sa vie. Voilà ce livre, voilà l'histoire de ce livre.
Ça va être très drôle.
En gros, et donc, il est obligé de trouver un emploi. Alors, je vais vous présenter un passage quand il vient de trouver un emploi. Au bout de deux jours, il nous dit « J'ai entrepris de me présenter au bureau une heure après l'heure convenue. De cette manière, je suis beaucoup plus frais et reposé quand je me présente et j'évite la première heure blafarde de la journée de travail au cours de laquelle mes sens encore engourdis font de toutes les tâches de véritables pensum. Je constate qu'en arrivant plus tard, j'ai considérablement amélioré la qualité de mon travail. » Ce à quoi la personne qui l'emploie ne sera pas d'accord, bien évidemment. Donc, il va devoir chercher un autre travail. Alors, c'est marrant parce que ce personnage, donc, qui est vraiment atroce, qui déteste tout, qui est difficile, qui est vraiment actuel, et bien, du coup, on l'aime bien. On se retrouve un peu en lui parce que tout ce qui est détestable que nous, on n'ose pas faire, mais lui le fait. Dans l'avant-propos, Walker Percy, donc.
C'est un anti-héros, quoi.
C'est un anti-héros qui est un héros, voilà, à la fois. Walker Percy, donc l'écrivain qui a accepté de faire éditer le livre, il décrit comme un extraordinaire cochon, un Olivier Hardy fou, un Don Quichotte gras, un Thomas d'Aquin pervers, tout ça en un seul homme. En gros, c'est ça. Alors, pour Ignatius, le monde est tissé de mort, de destruction, d'anarchie, de progrès, d'ambition et d'amélioration personnelle, où il faut désormais affronter l'ultime perversion, aller au travail. Voilà, donc c'est vraiment un roman pittoresque et acide où on retrouve beaucoup de sujets contemporains comme l'emploi sous-payé, la société de consommation, la télévision. On parle du folklore de cette ville qui est la Nouvelle-Orléans, de ses habitants. C'est vraiment un roman extrêmement drôle. Donc je vais finir par vous citer un paragraphe de ce livre, le lire. Donc sur ses notes de la vision du monde d'Ignatius, comment il voit le monde, donc il réfléchit sans cesse à trouver la meilleure façon d'aider les gens. Alors, donc Ignatius discourut. Vous savez, l'inventeur des menottes, des fers et des chaînes ne se serait jamais douté de l'utilisation que ses conceptions d'un âge plus rude et plus simple que le nôtre auraient un jour dans le monde moderne. Si j'étais à la place des promoteurs immobiliers et des responsables de l'aménagement du territoire en banlieue, j'en prévoirais au minimum une paire au mur de chaque foyer. Quand les banlieusards seraient fatigués de la télévision, du ping-pong ou des autres activités, quelles qu'elles soient, qu'ils pratiquent dans leur foyer, ils pourraient s'enchaîner les uns aux autres, se jeter au fer pour un moment. Tout le monde adorerait ça. On entendrait les épouses. « Mon mari m'a jeté au fer hier soir, c'était formidable. Le vôtre ne vous l'a jamais fait ?» Les enfants se hâteraient de rentrer de l'école à la maison car leur mère l'y attendrait pour les enchaîner. Cela permettrait aux enfants d'enrichir leur imagination, ce que la télé leur interdit, et je ne doute pas que la délinquance juvénile en serait considérablement diminuée. Et quand le père rentrerait à son tour, les autres membres de la famille pourraient se saisir de lui et le jeter au fer pour lui apprendre à être assez stupide pour travailler toute une journée dans le but de subvenir aux besoins du ménage. Les vieux parents ennuyeux pourraient être enchaînés dans le garage. On leur libérerait les mains une fois par mois pour leur permettre d'endosser leur chèque de sécurité sociale ou leur retraite. Les fers et les chaînes permettraient la construction d'une vie plus belle pour tous. Il faudra que j'y pense et que je consacre quelques lignes de mes notes. Voilà, donc c'est complètement décalé, c'est complètement fou. Et c'est vraiment ce qu'on appelle maintenant le grand roman américain, foisonnant, drôle, exhaustif, cruel et toujours moderne, bien après sa consécration. Donc je crois que Valérie l'a lu également.
Moi, je l'avais lu
et Louise,
aussi, ouais.
Qu'elle a beaucoup aimé.
Ah, oui. Moi c'est pareil, j'étais un peu inquiète au départ quand j'ai vu la taille du livre et en fait on se laisse emporter par ce récit qui est très drôle. Ce que j'ai trouvé un peu long dedans, c'est quand on lit ce que lui écrit, puisqu'à des moments même l'auteur, ça doit avoir un nom.
je ne saurais t'aider.
Ouais, c'est pas grave. Ce que lui écrit, en fait, il est c'est publié dans le livre, donc c'est écrit encore plus petit. Donc là, j'ai eu un problème visuel.
Voilà, sa vision du monde, lui, ouais. Décrit en se basant sur les philosophes, sur Diogène, sur ces gens-là. Ouais.
Ouais. Mais c'est l'histoire est très drôle, les personnages sont très marqués. Et si au début il est assez irritant comme personnage.
Oui, il est détestable.
Hein. Ouais, après on se dit, mais il va pas le faire. Il va
mais
pas
oui,
le faire.
On aime bien les gens détestables, ouais. Je ne sais ouais. Pourquoi, mais.
Tu vois, Ludo.
Ouais. Je suis pas
c'est assez, rassurant.
Moi, il ose. Toi, ça t'a laissé quoi comme goût?
Mais moi, j'ai mis du temps à lire. Le milieu scolaire m'a dégoûté de la lecture, voilà. Je le dis franchement, c'est peut-être les professeurs que j'ai vus, ça dépend des professeurs. Les Zola, oui, Lise dans la Vallée, tout ça. Aidé. Vraiment, pour moi, la littérature, c'était un autre monde. J'ai préféré faire autre chose de ma vie jusqu'à ce que je tombe sur certains auteurs qui m'ont redonné le goût de lire, dont un dont on va parler tout à l'heure. Et à la suite, je me suis attaqué donc à John Kennedy Toole, 477 pages, chose impossible à lire. Eh bien, ça m'a montré qu'on pouvait lire des gros romans, et c'est l'imagination, c'est la drôlerie, c'est voir des personnages en fait qui pensent complètement autre chose, qui osent pouvoir le dire, qui sont borderline. C'est vraiment on peut lire ça, des romans qui, des écrivains qui peuvent faire passer des messages borderline, et on sait que c'est du second degré, du troisième degré, et c'est extrêmement drôle, c'est vivant. On se sent vivre quand on lit ce livre.
Mais du coup, c'est toi qui es allé vers ce livre tout seul, ou c'est quelqu'un qui t'en a parlé
On m'en a parlé, ouais.
Oui. Oui.
C'est un ami qui m'en a parlé.
Comme quoi, tout se fait pas à l'école. Hein. Comme quoi, on ne peut pas reprocher à l'enseignement de... Enfin, on peut leur reprocher peut-être beaucoup de choses, mais en tout cas... Qu'on ne se construit pas simplement avec ce qu'on apprend à l'école et qu'il y a tout un travail dont on parle aujourd'hui un peu plus avec le périscolaire. Mais c'est peut-être ça ce dont on manquait. C'est-à-dire on a trop mis la pression sur l'école et le fait que notre devenir ne serait que le résultat de notre éducation scolaire. Et ce n'est pas du tout vrai, ce n'est pas du tout ça. Quoi.
Voilà.
Et qu'aujourd'hui, il ne faut pas forcément renvoyer toute la responsabilité aux enseignants, qu'on a notre part de responsabilité, nous en tant que père.
D'où le rôle des parents. C'est vrai que moi, mes parents ne lisent pas, par exemple, donc ils ne m'ont jamais poussé à lire.
Voilà. Par contre, tes potes lisaient, ou tes relations, ou tes copines, etc. Et du coup, ça t'amène dans d'autres univers. Et ça, c'est bien, je trouve.
C'est ça.
Est-ce que c'est un livre qui est toujours édité?
Ah oui, tout à fait, oui, mais c'est... Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent souvent, et c'est vrai que c'est un livre qui a marqué beaucoup.
Qu'on peut retrouver chez toi?
Oui, je l'ai.
Et chez d'autres libraires.
Tout à fait.
Aussi, il ne faut pas les oublier. Le rouge et le noir, d'autres librairies aussi, oui. Sûrement. Hein.
La librairie voilà. Chaptal.
La librairie Chaptal.
Oui, sans oublier la Berlue à Florac.
La Berlue à Florac. Donc il y a plein, un petit peu partout sur le département, il y a quand même de très très belles librairies. Il ne faut pas hésiter à y aller. Quoi.
Chez Valérie Amande aussi, vous souvenez, vous dites, vous pouvez me prêter un livre.
Voilà.
Après,
voilà,
il y a pas de souci. Il y a pour ceux qui cherchent des livres qui ne sont plus édités, il y a quand même le Troc Livre, organisé par la bibliothèque municipale Les Amis de la Bibliothèque, chaque année, plusieurs fois par an. Donc c'est aussi un moment très intéressant parce qu'on redécouvre certains bouquins qui sont plus édités. Et puis il y a quand même toute une équipe derrière qui peut conseiller. Quoi. Voilà, ben merci Ludou, c'était super.
De rien.
Pas de souci. Faut-il pouvoir se séparer d'un livre?
Ben, je ne sais pas si ça vous le fait, mais là, l'idée que quand on a aimé un livre, on a envie de le garder et de le transmettre, de le conseiller, mais aussi de le garder dans une bibliothèque. C'est quand même un élément matériel qui est...
Moi, je les prête juste, mais je les retrouve jamais parce que les livres, c'est comme les CD, on les prête, on les retrouve jamais. Ouais. Mais bon, on les rachète comme ça.
C'est ce qui arrive au deuxième roman. C'est ce qui arrive au deuxième roman que je vais présenter. C'est quand j'ai dit je vais présenter celui-là, je me suis dit, mais il est où? À qui ai-je prêté?
Eh bien, tout de suite, donc Valérie.
Je vais parler du premier roman. Voilà, puisque le premier dont je vais parler, je l'ai là. C'est un roman que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, puisque je l'ai lu en 2012. Donc, ce n'est pas un roman qui m'a fait découvrir la lecture ou aimer la littérature. C'est un roman que j'ai lu suite à un voyage en Hongrie. J'ai adoré ce pays et un guide qu'on avait rencontré en Hongrie nous avait vendu un peu l'idée de la littérature hongroise.
Et, hongroise, que c'est de la littérature.
Alors c'est très compliqué à lire parce qu'il y a des Z, des S.
Ils font pas que de la lutte en Hongrie.
Non, ils font aussi de la littérature, de la très bonne littérature. Donc le livre dont je vais vous parler, c'est un livre de Aaron Tamasi. Qui s'appelle Abel dans la forêt profonde. Donc Aaron Tamasi, lui, il pourrait presque être contemporain si on vivait quelques années plus tôt, puisqu'il est né en 1897 et mort en 66. Donc finalement, le livre qu'il a écrit, c'est 1920, presque dans la même période que Truman Capote. Par contre, on est aux antipodes dans son écriture du modernisme et du côté... moderne et citadin de ce qu'il a de
oui,
ce qu'il
c'est,
a
c'est pas réaliste en fait comme style.
C'est rural. J'allais dire c'est une écriture très très paysanne, très très nature. Et Aaron Tamasi donc il a écrit une trilogie dont Abel est le personnage principal. Par contre, il n'y en a qu'un qui a été traduit en français.
Aïe.
Donc je ne vous parlerai que de Abel dans la forêt profonde et pas des deux autres. Je ne dis pas
et tu attends les deux autres
J'ose espérer qu'un jour...
Mais Nico parle hongrois. Hein.
Tu parles hongrois couramment ouais. Ouais, mais il faudrait que tu me fasses lecture.
hongrois que je parle hongrois.
C'est ça. Voilà.
C'est chez qui, Valérie? C'est qui l'éditeur?
Eros Limite.
Parce qu'elle a ses entrées, Louise. Elle peut mettre la pression pour qu'il traduise.
Eros Limite.
Ouais, Eros Limite.
D'accord.
Genève.
Ouais, okay.
Ouais. C'est suisse,
ouais.
C'est ça.
Ouais, mais parce qu'en fait, il avait été traduit une première fois début des années 60 par un éditeur suisse. Puis ça s'était arrêté. Et là, ils l'ont. Donc, c'est la traductrice Agnès Jarfas qui l'a très très bien traduit, je pense. Je ne peux pas comparer avec l'original. Et ça a été retraduit, donc et enfin diffusé en France. Et on trouve au principe le Abel dans la forêt profonde et les étoiles de Transylvanie, qui est un recueil de petits récits qui sont très intéressants, qui font penser un peu à la littérature perse.
Ouais, bref. C'est les contes populaires, c'est ça en
fait. Ouais, voilà. Mais avec Abel dans les étoiles de Transylvanie, ouais. Il y a un petit côté mystique en fait, avec qui rappelle un peu la Hongrie où on voit les hommes masqués avec des grands masques, avec des cornes, un peu mystérieux. Ça se passe beaucoup en Transylvanie aussi, donc on est déjà dans des grandes montagnes, on est dans des déserts,
C'est le pays de Dracula, là.
C'est ça, et on s'approche de la voilà.
Cool.
Mais ça, c'est un peu cet esprit-là quand ça se passe le soir, il y a ce petit côté un peu mystérieux, un peu affolant.
Avec les colliers et tout ça, non ?
Pas jusque-là. Et Abel dans la forêt profonde, c'est un livre qui est a priori le livre de référence des collégiens hongrois. C'est le livre qu'on va leur faire lire. Et je me dis que j'aurais aimé être collégienne hongroise. J'aurais peut-être apprécié durant la période de l'adolescence la littérature davantage. C'est un livre qui est très beau, donc ça parle. C'est l'histoire de ce petit Abel qui vit avec son père et sa mère, et donc un soir de septembre dans les années 20, Abel doit partir vivre dans la forêt sous ordre de son père pour avoir un travail. Et il va l'installer dans une cabane dans les montagnes du Harghita, là où vivent les peuples sicules, pour protéger une forêt qui appartient à une banque et ben, vendre et éditer les reçus aux acheteurs de bois. Et on pourrait se dire, mince, s'il va dans une montagne, il ne va absolument rien se passer. Et c'est ce que pense Abel dès le départ. Il s'est dit, je vais m'ennuyer à mourir, d'aller passer une année dans les bois. Et en fait, il fait des rencontres farfelues, étonnantes. Et c'est très drôle, sachant qu'Abel, s'il vivait aujourd'hui, on dirait que c'est un petit merdeux. Parce qu'il a un sens de la répartie, c'est-à-dire qu'il retombe toujours sur ses pattes. Il a toujours réponse à tout. Il aime avoir le dernier mot. Et par contre, il est très malin. Il a le petit mot subtil. Il est très profond dans sa façon de parler. Si bien qu'une fois, il y a une calèche qui passe avec des prêtres. Et ils ont un débat sur la religion qui est absolument fantastique. Voilà. Et donc, il y a ce mélange, en fait, de très nature où c'est que il va nous décrire vraiment les saisons, les vraies saisons bien marquées avec l'été, l'automne, à l'arrivée de l'hiver avec des mètres de neige devant lui. Et en même temps, les histoires, donc, de ces personnes qu'il rencontre, des bandits, des truands, le directeur de la banque qui arrive alors que lui, la veille, il n'arrivait pas à dormir, donc il a bu un peu trop d'eau de vie pour s'aider à s'endormir, la difficulté de survivre, parce qu'il est tout seul, il est avec son père, lui a donné un chat, une chèvre, il trouve un chien, et voilà, il a que ça. C'est vraiment, c'est léger, c'est pas dur à lire, on n'a pas des mots qui sont compliqués, mais c'est très beau, ça sent l'air frais, et c'est très drôle. Il y a beaucoup de passages, moi j'aime les livres où je ris, et c'est très drôle.
Et est-ce qu'il y a une part de fantastique ou pas du tout?
Non, pas du tout.
Il n'y a pas de créature ouais. Ou de choses comme ça qui viennent de la forêt.
Non.
Il y a un banquier. Hein.
Ouais, mais il y a le banquier, il y a les truands. C'est assez surréaliste par moment parce qu'on se dit c'est pas possible. À un moment donné, il est né à devoir manger un vautour. Alors on se dit c'est pas possible. Mais voilà, ça
serait plus drôle.
C'est un gros poulet. Bon,
ouais, mais ça le rend malade, par contre.
Il n'a pas fait assez faisandé. Voilà.
C'est une petite ça. Nature.
Exactement. Voilà. Mais c'est très joli. Et c'est,
Aaron Tamasi, c'est quelqu'un qui est pas récent, quand même. Il est né...
1898.
Ouais. Ouais.
C'est ça,
ouais.
97.
Ouais. 97.
Ouais. Et c'est, mais malgré tout...
Après, il a immigré aux États-Unis.
Aux États-Unis, voilà.
Où ça, il est revenu après
Hongrie. Mais il est parti pour étudier. C'était pas non plus... Il est né dans cette terre hongroise. Ouais. On parle de la Hongrie qui est... Enfin, maintenant, ce serait une partie qui est roumaine, puisque avec donc le traité de Trianon, là, il y a une grosse partie de la Hongrie, enfin, il y a à peu près un tiers de la Hongrie qui est devenue hongroise.
Tiens, je vais poser une question juste
sur ça.
C'est quoi la capitale de la Hongrie ?
Budapest.
Très bien.
Quelle est la monnaie à Budapest, Nicolas ?
Ah, moi, tu as posé une question. Quelle est la monnaie à Budapest ? Ah, mais c'est l'euro.
Non, le forint.
Non.
Ils
ne
sont pas passés. Le forint.
Le forint.
Non, ils ne sont pas passés à l'euro.
Un forint est égal à combien d'euros ?
Je suis le forint.
J'en sais rien. Admettons qu'un ticket de bus coûte 1 euro. Là, on le paye 320. Donc
320 c'est... forint.
Oui, ça fait très bizarre parce qu'il faut convertir. On a l'impression d'être très riche.
T'as plein de billets.
Voilà, moi j'adore parce qu'on a l'impression d'être riche en Hongrie.
une valise pour toi et une valise pour les milieux.
Je fais la parenthèse géographique, mais c'est un très beau pays qui n'est qui pas encore passé à l'euro, donc qui est en termes de prix
abordable.
Très abordable par rapport à son voisin autrichien.
Au patrimonial, il y a des choses magnifiques.
C'est magnifique.
Tu es allé, Nico ?
Non, mon fils est parti l'hiver dernier pendant 8 jours.
Il a dû adorer.
Ah oui, il a adoré.
On compare souvent Vienne avec Budapest parce que c'est deux villes qui sont assez haussmanniennes sur la construction. Mais Budapest a ce côté, ils ont plus vécu le communisme aussi, à ce côté nostalgique et très belle. Et c'est déjà rien que le métro, quand on rentre dans le métro, on est encore dans l'époque communiste. Quoi. Ouais. C'est vraiment
les communistes.
Communistes.
Les communistes.
D'accord.
Ignatius, il appelle les communistes communistes.
Ouais. Il a plein de
communistes. Bande de communistes. Ouais.
C'est ça. Aaron Tamasi.
Voilà, c'est super.
Donc, édition Héros Limite.
Qui est un très très beau livre.
Dans.
Pardon ?
Dans le titre du. Du livre que tu as proposé ?
Alors, le titre...
Abel dans la forêt profonde.
Abel dans la forêt profonde.
Et voilà. Si vous avez juste pas envie de lire un roman d'Aaron Tamasi, vous pouvez lire Les étoiles de Transylvanie, qui est un recueil de petites histoires. Voilà, là où on a du surréaliste.
Du coup, tu disais que c'était une trilogie, en fait.
Ouais.
Donc, du coup, on retrouve Abel dans les autres livres, sans doute.
Oui, ouais. Aaron, Abel en Amérique.
C'est une trilogie. Abel à la plage. Abel fait la cuisine.
C'est le Martin Hongrois.
Abel dans la forêt profonde.
Non, voilà, les deux autres n'ont pas été traduits, mais je compte sur Héloïse pour...
C'est pour ça que même, c'est Martine Hongrois.
C'est ça.
Ouais. C'est trop bien.
Voilà, donc vous verrez, il y a beaucoup d'images.
Allez Nico, à toi. Quel livre tu nous proposes ?
Alors moi, je vais vous proposer un livre mais qui est très connu, qui a fait même le succès de son auteur. C'est « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué » de Ward Button. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand tu en parlais tout à l'heure, il y avait la traduction de ton livre... Ludo a été faite
par La Conjuration des imbéciles.
La Conjuration des imbéciles a été traduite par Jean-Pierre Carasso, qui est aussi le traducteur de prédilection d'Howard Button.
D'accord.
Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué, c'est un des ouvrages phares de cet artiste, Howard Button. Alors, je dis artiste plus qu'auteur, parce que c'est d'abord un artiste, Howard Button. C'est un clown clinicien. C'est on appelle ça un psychologue clinicien. Auteur aussi qui a beaucoup travaillé sur la problématique de l'autisme et des enfants autistes. Il a une activité qui s'est dévoilée à travers un personnage qu'on a appelé Buffo, le clown, voilà, qui est venu d'ailleurs à Mende il y a quelques années, qu'on a fait venir, enfin c'était la ville de Mende qui avait fait venir, sur nos conseils avisés, et on avait passé une superbe soirée. Alors c'est un clown particulier qui travaille avec l'objet, avec le décalage de ce qu'on peut faire avec des objets. C'est un vrai clown avec un nez rouge, hein, pas ceux qu'on voit dans la rue. Donc avec toute sa naïveté, sa fragilité, sa beauté dans le geste, dans la drôlerie de ses actes. Voilà, c'est ce qui nous fait, nous aimer les clowns. Voilà. Il vit actuellement à Paris. Voilà, il s'est construit quand même pas mal sur l'idée du mime Marceau. Il y a très très peu de... Il y a des vocalises, mais il parle très très peu, ou dans un jargon qu'on comprend à peine. Voilà. Il vit à Paris, entre Paris et New York, beaucoup plus à Paris depuis son succès de Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué. Et il continue à présenter son travail sur Paris sous la forme de son clown Buffo. C'est des... voilà, si vous allez à Paris, vous pouvez le...
C'est lui-même qui joue le clown ?
Ah oui, c'est lui-même.
D'accord.
Qui est clown. Alors, il a eu beaucoup d'expérience, puisque c'est psychoclinicien, et il raconte dans ses différents ouvrages, dans Monsieur Butterfly, dans Mon corps sous un rouleau compresseur, dans les différents livres qu'il a pu éditer, des expériences comme ça, où il se retrouve notamment dans une clinique à New York. Et on lui dit, tiens, vous êtes clown, ce serait bien que vous alliez un petit peu faire quelques actions là dans la clinique pour les enfants. Alors, il se trompe d'étage, il tombe chez les personnes âgées, après on l'envoie à différents étages, et puis à chaque fois, il essaie de faire le clown. Et puis, on lui dit, non, mais là, faut pas aller là, en fait. Là où on a vraiment besoin de vous, c'est au dernier étage où il y a les enfants qui sont incurables, qui vont mourir. Et donc, il monte là-haut et en fait, il peut pas faire le clown. Voilà. Mmh. Il arrive un moment où il prend conscience qu'il peut pas grand-chose, quoi. Et puis, on l'envoie ensuite chez les enfants autistes. Et donc, là, il passe un moment extraordinaire qui bouleverse sa vie. Et à la fin de cet entretien, enfin de cette rencontre, il dit si je peux, là, vous pourriez pas m'en mettre 5. Et donc, il repart chez lui avec 5 enfants autistes qu'il adopte. Et voilà, et son histoire démarre comme ça, et c'est assez fabuleux. Enfin, il faudrait dire tout son parcours à Howard Button. C'est un parcours personnel, c'est un parcours d'individu. Ce que je trouve intéressant dans sa façon d'écrire, c'est à la fois des témoignages, mais c'est bon. Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué, c'est un roman, hein, qui est très certainement parti d'une histoire vraie. L'histoire d'un petit garçon. Donc, si on rentre plus dans le vif de ce sujet qui est abordé, en fait, c'est un vrai roman d'amour. Donc, je ne sais pas si vous l'avez lu.
Non. Oui, moi je l'ai lu quand j'étais ado.
Voilà, alors c'est vraiment un livre pour ados. Moi je l'ai conseillé même à la fin du CM, quoi, pour les enfants, que c'est un livre qu'on peut lire aux enfants par petites parties, comme ça, en classe, ou quand on fait un moment le vendredi soir avant que les enfants partent de l'école. Moi j'ai fait ça pendant quelques années et j'ai lu ça, et les enfants étaient scotchés, attendaient vraiment la suite de l'histoire. Alors il y a des passages qui sont compliqués parce que ça fait appel à la sexualité. Donc c'est un roman d'amour qui est raconté en fait par un garçon de 8 ans qui écrit. Donc un garçon de 8 ans, il n'a pas l'orthographe et la grammaire et la conjugaison qu'on maîtrise nous. Et donc c'est une façon d'écrire pur jus, je dirais, dans l'enfance. On est vraiment plongé dans l'enfance et de ce que vit un enfant de 8 ans qui s'appelle Gilles, mais qui en fait dans sa tête n'a pas 8 ans. Il est beaucoup plus mature que ça. Et sa façon de vivre de cet enfant, en fait, va bouleverser et va surtout intriguer et pousser les conventions des adultes qui, en fait, le déclarent coupable. Donc, il se retrouve victime un petit peu de la bêtise et d'une absence de regard sur l'enfance et sur l'adolescence et sur la sexualité de certains adultes, même encore aujourd'hui, et qui transforme, en fait, ses rêves en symptômes cliniques. Et son amour en attentat. Il est amoureux d'une petite fille qui est un peu plus âgée que lui, qui a 13 ou 14 ans, qui s'appelle Jessica. Et en fait, à cause de ce qu'il a fait à Jessica, c'est pas grand chose en fait, il se retrouve à la résidence homme d'enfant, les pâquerettes ça s'appelle. Voilà. Donc c'est à la fois une histoire qui amène à rire, parce qu'il y a des situations très très cocasses et très drôles, et aussi qui amène à se poser vraiment des questions de ce que nous, comment on fabrique notre parentalité quand on est parent et comment on regarde les actes des enfants aujourd'hui. Voilà. Bon, mais c'est au quotidien et puis suivant la façon dont on a été élevé, etc., avec le carcan de notre judéo-christianisme, c'est compliqué, mais je pense que ça amène vraiment à réfléchir, quoi. Voilà, c'est une histoire qui est écrite dans une langue merveilleuse, merveilleusement préservée, qui est celle de Gilles. Gilles est en effet enfermé dans un hôpital psychiatrique pour troubles du comportement, avec symptômes schizoïdes. Ça, c'est la façon dont il a été déclaré. Son crime, il a été surpris à des jeux amoureux avec sa petite copine Jessica. Donc c'est son histoire qu'il raconte, une histoire écrite à la première personne. D'où le titre « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué ».
À quelle date, Nico, il raconte cette histoire ? Le jeune, à peu près l'époque pour se rendre compte de...
Dans les années 80 les années,
ouais, d'accord, ah oui, donc ça reste récent.
Récent, ouais. Toute son histoire, sa famille, son école avec ses copains et ceux qui ne le sont pas, c'est vrai, devant les héros de la télé, ses craintes et ses révoltes, sa tendresse pour Jessica. Et ce récit est écrit dans sa langue, une langue qui écorche la syntaxe, mais nous attendrit et nous séduit par ses retrouvailles poétiques, ses mille drôleries, la façon dont elle transcrit la réalité tel que peut l'avoir Gilles. Un livre vraiment pour adolescents, je pense, qui est vraiment intéressant. Il a écrit la suite de cet ouvrage qui s'appelle « Mon cœur sous un rouleau compresseur », qui est rarement lu d'ailleurs, qui est la suite. Voilà. Qui est la suite sans vraiment être la suite. Mais il se retrouve quelques années plus tard.
On retrouve Gilles, en fait.
On retrouve Gilles et Jessica.
D'accord.
Et donc, la suite est vraiment intéressante.
Ils ont 17 ans.
Voilà. Ils deviennent adultes. Et comment on passe après à l'âge adulte avec toute cette histoire ? Il a écrit aussi Monsieur Butterfly, un très très beau livre. C'était mieux avant, il faudra bientôt couvrir, et il y a des choses, il y a quelqu'un dedans. Donc là, c'est vraiment un livre qui traite de l'autisme. Voilà. Peut-être vous lire un petit extrait dans la façon dont c'est écrit.
Oui.
Voilà. Il y avait une photo sur le bureau du docteur Nevel, des enfants. Il y avait une photo de Jésus-Christ, qui doit être une fausse parce qu'il n'y a pas d'appareil photo à l'époque. Il était sur la croix et on lui avait accroché un écriteau. Il avait écrit « On rit ». Vraiment, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Alors mon papa m'a dit que tous les jours, il y a des gens qui deviennent morts et que personne ne sait pourquoi. C'est comme ça, c'est les règles. Et puis, il est redescendu, mon papa. Je suis resté assis sur mon lit très longtemps. Assis comme ça, longtemps, longtemps. J'ai quelque chose de cassé à l'intérieur. Je sentais ça dans mon ventre et je savais pas quoi faire. Alors, je m'ai couché par terre, j'ai tendu le doigt avec lequel faut pas montrer parce que c'est impoli, et je l'ai appuyé contre ma tête. Et puis j'ai fait poum avec mon pouce, et je m'ai tué.
Ouais, c'est voilà. De l'écriture instantanée d'enfant.
L'écriture directe, avec une syntaxe qui est accrochée, est une conjugaison qui est à peu près.
C'est un roman court.
C'est un roman assez court. Très touchant.
C'est un bouquin extrêmement prenant. Alors à ça, il faut vraiment aller consulter sur le site, sur les sites
aujourd'hui. Avec ça, il faut vraiment
après
aller consulter.
Ah voilà, oui, il faut aller consulter les sites parce que Buffo, on comprend mieux sa démarche à Howard Button. C'est un tout en fait. C'est pas simplement, il écrit pas simplement comme auteur pour vendre des bouquins quoi. C'est vraiment un parcours personnel. Il a tellement de choses à dire. Bon, il a été invité. par Jean-Philippe Pi, par des gens comme ça, par il a fait beaucoup de travail aussi dans des théâtres où il a fait des conférences. On peut le retrouver encore aujourd'hui pas mal.
Je m'ai mordu la langue. D'accord, c'est quelles éditions ça dû, on remarque que ça doit être dans plein d'éditions.
Édition Virgule, à l'époque, moi c'est le que j'avais. Ouais.
Voilà. Mais il doit être encore édité parce que c'est vraiment un classique aussi. Ouais. Enfin, c'est,
On les retrouve, oui, tout à fait.
Oui.
Ok, alors une petite surprise à la place, donc tu attends Nico, à la place que j'explique un peu le principe, à la place de la musique que tu avais choisie. En fait, je me suis baladé dans Mende dernièrement pour faire une interview et je suis tombé sur un de nos auditeurs qui m'a dit « Ah, je vous ai entendu la dernière fois, vous allez faire une émission sur vos romans préférés. » Et mais ça serait bien que vous questionniez les gens dans la rue, parce que moi, j'aimerais bien parler de mes romans préférés. Je dis « Mais c'est une formidable idée, ce micro-trottoir !» Donc, je suis parti interviewer les gens dans la rue et les animateurs de 48FM. Il a fini en me disant « Mais Valérie ne te l'a pas dit ?» Donc j'ai dit non, Valérie ne me l'a pas dit, et donc on va écouter les gens dans la rue c'est nous parler de leur livre préféré.
Valérie, celui qui fait au revoir.
Celui de la fin.
Si je devais sortir un livre, ce serait L'alchimiste de Paulo Coelho, parce que c'est le premier livre qui m'a donné vraiment envie de lire quand j'étais jeune et que j'avais pas forcément envie de lire tout le temps, plutôt envie de faire la fête. Et après un deuxième livre, c'est plus compliqué, ce serait plutôt un écrivain. Et là, ce serait Romain Gary, mais pour l'ensemble de son œuvre que j'adore.
Alors moi, ce serait Les Chemins d'étoiles de Christian Signol. C'est mon livre préféré. Je trouve qu'il est très joli. C'est une jolie histoire d'amour et une histoire d'amitié pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Alors moi, mon livre fétiche, c'est Le Seigneur des Anneaux. Voilà, classique des classiques, heroic fantasy, Tolkien.
Ça serait L'Alchimiste de Paolo Coelho. Pourquoi ? Parce qu'il a changé ma vie.
Si c'est un homme de Primo Levi, c'est un peu plombant, mais c'est l'histoire de ce 20e siècle et c'est assez intéressant à découvrir. Et puis sinon, de façon un petit peu plus ludique, j'aime bien lire la série des Nicolas Le Floch par Jean-François Parot. Donc on se replonge à l'époque de la fin de la royauté en France et juste avant la Révolution avec le commissaire aux enquêtes royales, deux styles différents.
Un livre de Diana Gabaldon.
Le Petit Prince.
Alors ça serait un livre soit de Guillaume Musso, soit de Marc Lévy, parce que c'est des auteurs qui se lisent très bien, il n'y a pas besoin de réfléchir et que ça passe tout seul au niveau de l'histoire et c'est assez détendant.
Je dirais Géologie du Languedoc-Roussillon, c'est une édition BRGM, je crois, qui était un très bon livre sur la géologie d'une manière très générale, c'est tout public, quelque chose qui se lit assez bien. Alors j'ai plus l'année en tête, mais c'est vraiment un ouvrage très très intéressant, on va dire, pour démarrer un petit peu la géologie, s'intéresser aux bases de la géologie, de la paléontologie en général sur le secteur.
Le livre de Robert Louis Stevenson parcourt avec un âne en Cévennes, parce que c'est un livre que j'aime bien, parce qu'on traverse toute la Lozère et on découvre petit à petit tout un tas d'événements qui arrivent à cet écrivain, et on peut comparer les lieux avec aujourd'hui. Tout a tellement changé. Voilà, c'est pourquoi j'aime bien ce livre. Que j'emporterai peut-être avec moi si je pars en congé.
Alors si je dois en sortir un, c'est le dernier que j'ai lu, L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. On se balade dans Barcelone, c'est au début du franquisme. Et puis voilà, l'histoire est magique, ça m'a beaucoup plu.
Là je suis dans du Van Gulik, je ne sais pas si ça pourrait vous dire quelque chose. Donc je reprends des vieux livres que j'ai et que j'aime bien relire d'ailleurs.
Non, je vous donnerai des noms d'auteurs plutôt parce que je suis Guillaume Musso. J'ai lu toute sa collection, Dan Brown, Catherine Pancol,
voilà, des choses comme évidemment.
Ça. Moi j'en ai un, mais je ne sais pas le nom. Il s'appelle Un autre monde. C'est sur la tribu qui vit en Australie. Et c'est une journaliste anglaise qui a eu l'autorisation de participer à leur pérégrination, nue comme eux, et qui a appris le pourquoi des mouches et le pourquoi de plein de trucs, en fait. D'accord. Celui-là, je le garde. Parce que c'est des gens qui sont vrais, qui vivent de peu, et puis qui nous apprennent et qui nous apprendront encore beaucoup de choses. Hein.
Moi, c'est Marie Higgins Clark. Vous voyez, moi, j'aime ces livres-là. Autant t'en emporte le vent, vous voyez, toute cette littérature.
Les Harry Potter.
parce que y a beaucoup de descriptifs par rapport au film plus complètes, qui permettent plus d'imagination.
Récemment, c'était Confiteur de Jom Cabré. Pourquoi ? Parce que ça traite aussi de violence. Alors forcément, ça m'intéressait un peu, mais c'était ce côté psychologique que j'avais trouvé très sympathique.
Dernier de Mondiano, hein, puisqu'on en parle beaucoup et que j'ai encore rien lu de lui. Voilà. Voilà, et je pense que je connais un peu le sujet, ça doit m'intéresser. Voilà.
Et voilà.
Super.
On remercie tous les gens qui sont prêtés à ce petit jeu. C'est intéressant de savoir ce que chacun lit.
Je suis étonnée qu'il y ait des gens en Inde qui lisent Émile Ajar et voilà.
Et oui.
Je plaisante.
C'est un peu snob ce que tu dis.
Non, je plaisante. Je faisais un clin d'œil à la première personne.
Ouais. Romain Gary, c'est super.
Oui, j'adore ce film.
Il faudra parler.
J'ai pas eu le choix parce que la première personne qui a été interviewée m'a forcé à lire tous les Romain Gary et Émile Ajar, en fait. Et je le remercie.
On va passer à la deuxième partie.
Allez, de
tout suite. Avec Héloïse qui nous présente son deuxième livre.
Tout à fait, je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle In God We Trust, donc traduction en Dieu nous croyons. C'est une BD de Vinch Luce chez les Requins Marteaux. Donc Vinch Luce, je vais vous dire deux mots sur Vinch Luce parce qu'on n'a pas trop le temps, mais Vinch Luce, en fait, c'est Vincent Paronneau, c'est un monsieur qui travaille avec Marjane Satrapi sur tous ses films, donc Persepolis. Poulet aux prunes.
Il y a film d'animation
et il y a aussi, un film avec des acteurs. Ouais. Donc c'est vraiment un artiste complet. Il fait plein de choses. Il dessine merveilleusement bien. Il écrit très bien. Il filme. Il est très drôle en plus. C'est un chouette type. Et donc il a beaucoup de talent. Et donc il a eu reçu le Fauve d'or à Angoulême pour une BD qui s'appelle Pinocchio.
Ah, je l'ai lu, Pinocchio.
C'est vrai ?
Mais c'est peut-être pas la même. Mm. C'est celle avec le petit garçon en bois.
Tout à fait.
Ah, mais c'est ça.
C'est une adaptation assez trash et critique de notre société actuelle du conte classique italien Pinocchio de Collodi.
C'est gros dégueulasse qu'il y a dedans.
Gros dégueulasse, non.
Arakiri, non ?
Non, enfin, c'est pas vraiment style Arakiri parce que c'est moins lourd, on va dire. C'est tout en finesse, c'est tout en poésie, c'est de la poésie trash, c'est de la poésie humour très très noir.
Les personnages s'y ressemblent.
Et donc Pinocchio, pour lequel il y a eu le Fauve d'or, c'est une BD sans images, mais ça, on ne voit pas passer. Moi, à la fin, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de texte et je ne m'en suis pas rendu compte. Ouais. Et vraiment, c'est très très fort. Et donc celle dont je vais vous parler, c'est In God We Trust, donc c'est la dernière BD qui est sortie, et c'est une adaptation de la Bible en BD, à sa façon, donc très noire, très trash, très drôle. Et
on est en train de lire le livre en même temps.
On l'écoute, mais en même temps.
Parce que j'ai apporté des petites choses.
Ah oui, c'est délicieux ça, ce que tu nous as apporté.
Voilà. Et donc c'est une adaptation à sa façon de la Bible et c'est extrêmement drôle et il faut absolument le lire et voilà, donc merci à Vinch Luce pour toutes ces BD parce que c'est très bien.
Et l'adaptation de la Bible, c'est l'histoire détournée ou c'est la vraie histoire est revisitée ?
C'est la vraie histoire revisitée, détournée, donc... Par exemple, à la fin, on voit Dieu qui offre à Jésus, son fils, il vient se rabibocher, ouais. Et il lui offre en fait une séance de surf, mais en fait c'est l'Apocalypse, il lui offre une séance de surf sur la terre qui est en train d'être engloutie.
D'accord. Okay.
Voilà, il y a plein de choses. Il y a par exemple, à un moment donné, il y a un tigre qui présente une boîte de conserve, mm-hmm. avec marqué les chrétiens, c'est bon, voilà, des choses comme
c'est
ça.
C'est comme là, les rois mages qui se présentent. Et Joseph qui dit, je vous l'ai déjà dit, on n'a besoin de rien, alors vous remballez vos babioles et vous tirez avant que j'appelle les flics, c'est compris les Romano ?
Ouais, voilà. D'accord. Tout à fait. Mais il y a vraiment une vraie réflexion derrière et c'est une vraie critique de plein de choses. Voilà, dans Pinocchio, il critique la société de consommation et dans In God We Trust, il essaye de bousculer un peu cette culture religieuse qu'on a tous malgré tout, quoi.
Ouais.
Et c'est vraiment très drôle.
Allez, dis-nous un mot aussi sur les trois livres que tu as apportés,
oui,
parce que ça nous fait beaucoup rire.
Ah oui, je savais que ça allait vous plaire.
C'est abominable.
Les horreurs culinaires.
C'est une petite collection, collection qui vient de se lancer aux éditions Tana. Et donc, c'est la collection Petite Galerie. Donc, Petite Galerie des horreurs capillaires, des horreurs de cartes postales et des horreurs culinaires. Et c'est vrai que c'est un recueil d'images assez incroyable et ils sont en train de se marrer.
Allez, le petit bouquin des horreurs de cartes postales, c'est énorme. Tu t'imagines envoyer ça aux gens, mais...
Non, mais c'est pas possible, ça existe.
C'est des vraies cartes postales. C'est des vraies cartes postales. Et regarde page 62, attends, je vais te montrer. Donc oui, c'est très drôle et c'est un petit cadeau qui peut faire très plaisir et qui peut faire rigoler toute la famille pendant longtemps.
Pour Noël, là, c'est sympa. Ouais.
Attends, non,
mais les horreurs capillaires, il y a marqué « Comment se coiffer moche en 80 leçons
». Sur le culinaire, t'as quoi ?
Sur le culinaire, t'as des têtes de cochon, enfin, vraiment des trucs...
Avec les petites citations en rythme.
Alors, par exemple, des... Oh là là, c'est une... Tiens, voilà du boudin, là. J'ose même pas vous expliquer ce qu'il y a sur la carte postale. Et puis, c'est la carte postale. Je ferai carte postale, mais j'ai jamais vu ça. En Normandie, quand il y a de la boule, on a la frite. Faut pas rêver. C'est bon. Excusez-nous, on découvre le tabou, vraiment, les livres mènent à tout. Ah, merci Héloïse.
C'est quand même du livre.
On dormira moins bête ce
soir. Ah, et quel embourg de mauvais goût.
T'es sûr que c'est la France, ça? Ça vient pas de chez nous.
C'est excellent.
Moi aussi. C'est excellent, franchement. Excellent. Donc, édition Tana.
Voilà,
petite galerie des horreurs culinaires. On a donc ensuite
les horreurs capillaires et les horreurs postales.
Les horreurs postales. Ah, franchement.
On est embêtés, il nous reste 4 minutes pour 3 livres. On va peut-être parler de ces livres pendant 4 minutes. Bon, allez, très rapide, 1 minute, ça va être dur. John Fante dit Fante en italien, car il est d'origine italienne, pour le livre Demande à la poussière. Auteur américain, né en 1909, mort en 1983, donc un fils d'immigrés italiens. Qui voit le jour au sein d'une famille croyante et conservatrice. Donc c'est les années 1900 aux États-Unis, difficultés au sein des États-Unis, alors qu'il est né là-bas, parce que pour les gens, c'est le Rital, c'est le macaronier, etc. C'est quelqu'un qui est toujours au bord. À 20 ans, il décide de partir à Los Angeles pour faire une carrière d'écrivain. Il est persuadé de son talent. Il part là-bas, il commence à écrire et il y a un célèbre personnage qui s'appelle Mencken, qui est rédacteur en chef de la prestigieuse revue littéraire The American Mercury, qui publie régulièrement des nouvelles de John Fante dès qu'il a 24 ans. Et donc là, il est encore plus persuadé de son talent. Il récupère un peu d'argent qu'il envoie à ses parents, qui ont du mal. Le père est maçon, alcoolique, il travaille pas l'hiver au Colorado, vous imaginez. La mère a des dettes chez l'épicier du coin. On essaye de l'éviter. On retrouve ça dans ses ouvrages. Demande à la poussière, c'est justement son passage aux États-Unis quand il arrive, qu'il a 20 ans, qu'il fait publier cet ouvrage. Et c'est cet esprit torturé, borderline, qui croit en lui, qui est égocentrique, mais qui a un manque de confiance en lui, qui a lu Nietzsche, qui est athée, mais d'un côté, qui s'est tellement fait rabâcher dans les écoles jésuites, ce catholicisme, qu'il est entre deux. C'est constamment ça. Et c'est une écriture facile à lire, c'est direct. Il a vraiment révolutionné l'écriture américaine. Quand il a sorti Demande à la poussière, qui est pour lui son chef-d'œuvre, qui sera son roman le plus popularisé, son éditeur l'a sorti en 1939 en même temps que Mein Kampf, parce que son éditeur voulait faire connaître Mein Kampf et les dangers du nazisme. Alors, ce qui n'est pas passé aux États-Unis, ils se sont dit « Oh là là, la maison d'édition nazie, on n'en parle pas de ce livre ». Et finalement, il n'a pas du tout été vendu. Donc John Fante va arrêter d'écrire. Il va partir dans une carrière de scénariste à Hollywood, un grand scénariste qui aura beaucoup d'argent, une carrière alimentaire. Mais il se détestera de faire ça et de laisser tomber la littérature, qui est pour lui quelque chose d'énorme. Il a été connu grâce à Bukowski. Bukowski qui remettra au goût du jour John Fante. Il faut savoir qu'à Los Angeles, qu'on est SDF, qu'on n'a pas d'argent, mais le seul moyen d'être au chaud, c'est d'aller dans les bibliothèques qui sont ouvertes aux personnes sans l'argent. Et Bukowski racontera qu'il déteste toute la littérature américaine, qui pour lui est formatée, la littérature mondiale. Il aime juste les écrivains russes, quelques philosophes allemands, mais c'est tout. Il racontera qu'il passait de rayon en rayon. Il regardait la religion, c'était pas intéressant, les mathématiques non plus. La chirurgie, ça l'a un peu intéressé, parce qu'il y a des images sympas et des nouveaux termes qu'il connaissait pas. Il retourne vers la littérature, toujours barbant, formaté, etc. Et là, il tombe sur Demande à la poussière de John Fant. Il dit, c'est comme avoir trouvé de l'or dans une décharge publique. Ça a révolutionné ma vie, ça m'a donné envie d'écrire. Et il criait chez lui, je suis Arturo Mandini. C'est l'histoire de John Fant. C'est ce qui m'est arrivé aussi.
C'est une histoire magnifique, cette histoire de la bibliothèque avec Bukowski, j'adore.
Avec Bukowski, c'est Bukowski qui a permis de connaître John Fant, qui est beaucoup plus grand. Donc je reviendrai sur John Fant. Donc il a écrit beaucoup de livres sur sa famille, sur sa vie, sur ses immigrés américains aux États-Unis, sur Arturo Bandini, dont Demande à la poussière, avec l'histoire où il tombe amoureux d'une immigrée mexicaine, et voir comment ça se passe. Voilà, je vous le conseille, je reviendrai dessus.
C'est le livre qui t'a fait changer d'avis, tu as
voilà,
dit ça là.
Absolument, qui a changé de ma vie même.
Tu as changé de ta vie, c'est vrai?
Ouais, complètement. Qui m'a donné envie d'écrire.
De
faire des mots mon métier, et d'aimer la littérature, qui m'a ouvert à la lecture.
On en parlait en début d'émission, c'est une émission un petit peu consacrée à ça, c'est-à-dire à ce qui nous fait. Nous transporter des fois dans des ailleurs et puis qui ont des conséquences en fait sur nos choix de vie. Mmh. Ça c'est important parce que voilà, on s'oriente après. Je sais pas si ça a été ton cas un petit peu.
Non, c'est des livres fondateurs. Oui, après ceux que j'ai présentés là, c'est vrai que j'ai eu du mal à choisir dans ma bibliothèque parce qu'il y a plein de bouquins que j'adore. Mais après mes livres fondateurs, j'en parlerai la prochaine fois.
D'accord.
C'était très intime quand même.
Oui, on vous a livré quand même beaucoup de notre intimité. Mmh. Et c'est vrai, c'est pour ça aussi qu'on en rigole, mais.
Dans la petite galerie des horreurs postales.
La petite galerie des horreurs postales, je vais l'offrir celui-là. Parce que franchement, il vaut le détour. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette émission.
Nico et Valérie n'ont pas pu parler de leur deuxième livre. Donc,
on en parlera
la prochaine fois.
Ouais. Voilà,
c'était l'autobiographie de Nabila, Valérie, que vous voulez présenter.
Moi, je voulais juste parler de la SF parce que souvent, c'est décrié et ça ne fait pas partie de la littérature.
On fera une émission un jour spéciale sur
voilà, parce que je pense qu'il y a énormément d'auteurs, c'est très très riche, c'est une autre vision de l'écriture et que ça fait appel souvent aussi à des données scientifiques. Voilà, on en a parlé avec, avec ce qui se passe actuellement. Si on n'est pas dans la SF, on est dans la réalité avec la sonde qui vient de se poser sur une comète. Voilà, la fiction se rapproche de notre réalité ou le contraire.
Oui, et souvent les scientifiques s'inspirent aussi de ce qu'ont écrit les auteurs de SF et le contraire. Donc c'est intéressant comme domaine, oui, tout à fait.
Voilà, et on vous souhaite une très bonne semaine. Très bonne quinzaine, on se revoit bientôt. On aura un programme du direct avec.
C'est dans deux semaines. Voilà, en direct à midi et demi de la librairie La Lorgnette pour M lire avec tous les auteurs, les illustrateurs qui seront présents au salon. Et on sera également, nous, présents à l'Aile Saint-Jean le samedi. Toutes les heures, il y aura des directeurs radio avec encore les auteurs présents, des libraires, tout ce beau monde.
Bonne semaine à tous.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.